Vous écoutez France Culture.
Bonjour. Le principe veut que les juges statuent en toute impartialité, mais les juges sont des hommes et des femmes comme les autres, et donc, à ce titre, sujets à toutes sortes d'influences. On se concentre d'habitude sur les influences politiques, partisanes, les liens d'amitié, le souci de carrière, que sais-je encore. Mais il existe d'autres formes d'influence sur la perception que le juge a d'une affaire, influence qui peut tenir aussi au contexte local ou à l'actualité. C'est ce type d'influence que s'est intéressée une récente recherche qui s'est demandé dans quelle mesure la télévision influençait les décisions des juges. Et cette recherche, qui est signée d'Arnaud Philippe et d'Aurélie Housse, a été publiée en français et en anglais. Elle porte le titre « Les effets de la peur » ou « Comment la couverture médiatique affecte les peines prononcées ». Arnaud Philippe, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes chercheur en économie. Vous nous expliquerez ensuite pourquoi. Et donc, vous intéressez à la caractérisation des comportements humains. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous est venue l'idée de, un économiste que vous êtes, de vous intéresser à cette question de la peine, de la pénalité ?
Alors, d'une manière générale, l'économie, au sens où moi je l'entends, enfin la discipline dans laquelle je m'inscris, traite beaucoup plus largement que ce que le sens commun entend par économie, à savoir tout ce qui peut être monétaire ou activité salariale, etc. Mais va plutôt chercher, dans mon cas, chez ceux qu'on appelle les empiristes, à sortir du sens des causalités au sein de quantités de données assez conséquentes, de quantités de données statistiques, généralement recueillies auprès des administrations public, on y reviendra, et va essayer de mettre en évidence des corrélations entre plusieurs variables, et ensuite d'essayer de démontrer dans quel sens vont ces corrélations et s'il y a ou non des causalités là-dessous. Alors ça, c'est le cadre très général de ce qu'on va faire en économie. Au sein de l'économie, on s'intéresse depuis assez longtemps, principalement aux États-Unis, à la question de savoir ce qui va influencer les décisions de justice, principalement avec deux extrêmes qui sont ce qu'on appelle le formalisme, où on a des gens défendant l'idée que les juges sont la bouche de la loi, un peu à la Montesquieu, les juges appliquent ce qui est dans le texte.
Et des qui gens refusent de voir la réalité de l'acte de juger, en réalité.
Et des gens de l'autre côté, qu'on appelle les réalistes, qui ont tendance à dire, pour caricaturer là aussi, que les décisions de justice sont ce que le juge a mangé au petit déjeuner. Et au sein de ce corpus-là, donc il y a un certain nombre d'études qui ont été faites, donc encore une fois principalement aux États-Unis, avec notamment cette question quand même assez cruciale des jurés, donc de l'opposition entre magistrats professionnels et magistrats citoyens. Et une partie importante de ces recherches a principalement porté sur les dynamiques internes du procès, c'est-à-dire essayer de montrer dans quelle mesure les caractéristiques socio-démographiques des juges ou des jurés pouvaient avoir des influences sur le déroulé d'un procès. Éventuellement, dans quelle mesure elles entraient en interaction avec les caractéristiques socio-démographiques de l'accusé.
C'est ça.
Donc c'est toutes les questions qu'on va avoir aux États-Unis et en Israël également, il y a plusieurs études là-dessus, sur est-ce que, par exemple, le fait que les jurés soient tous blancs ou pour partie noire va influer sur la condamnation d'un accusé noir aux États-Unis. Aux États-Unis, où la question raciale est énormément étudiée, puisque les statistiques sont autorisées sur ces questions-là.
C'est intéressant, d'ailleurs, que je pense à l'étude de Bennett et de Feldman, qui montre que c'est pas le préjugé racial direct qui joue dans ce cas-là, mais c'est le rôle attendu de l'accusé en fonction de sa communauté. S'il se conforme au rôle de sa communauté, il sera moins sévèrement puni que quand il sort du rôle que les jurés ont dans la tête, c'est ça.
Alors, on va retrouver ce type de résultat. Alors, c'est ce qu'on appelle ça fait partie des grands biais qui sont étudiés. Alors, ça a été étudié aux États-Unis dans un article récent de Anvar et ses co-auteurs, où ils montrent que dès lors qu'il y a au moins un noir dans le pool de jurés parmi lesquels est tiré au sort le juré, on diminue très fortement l'écart qu'il y a dans les peines entre les blancs et les noirs sur les condamnés. On trouve également ce genre d'études. Alors après, c'est des études qui sont assez compliquées à faire parce ça nécessite des bases de données à récolter, qui posent assez souvent des problèmes éthiques, des problèmes de confidentialité, etc.
Et puis qui sont plus faciles à faire aux États-Unis à partir du moment où on nomme les races. C'est plus compliqué en France.
Ah oui,
où on
alors
nomme
ça, pas oui. les races. Pour la question raciale, très clairement, c'est totalement impossible. C'est totalement impossible en France. Mais
ce serait quand même particulièrement utile pour les juridictions françaises de savoir est-ce qu'il y a un biais constatable en fonction de l'appartenance ethnique de l'accusé, par exemple.
Alors ça. Après, ça dépend de choix politiques plus généraux qui sont est-ce que en refusant de mesurer quelque chose, on l'atténue au fur et à mesure.
Et qu'est-ce qu'en pense l'économiste que vous êtes, ancien président de Genepis et ancien président d'une association chargée de l'enseignement en prison ?
Alors, j'ai pas de réponse très, très, très claire à apporter là-dessus. Et effectivement, pour des questions de recherche, ce serait très intéressant d'être capable de mesurer ça.
Et pour une question de retour d'expérience pour les juges, parce que ce n'est pas du tout dans une perspective moraliste que je fais ça, mais c'est plutôt dans l'idée que les juges ou les jurés ou les membres de tribunaux pour enfants puissent avoir un retour sur ce qu'ils font. C'est ça aussi le rôle de la statistique.
Non, bien sûr. Effectivement, pour nous, ce serait des questions qui seraient assez intéressantes à mesurer. Bon, pour l'instant, on ne peut pas le faire en France. Mais donc aux États-Unis, ça a été fait. Il y a aussi des travaux en Israël là-dessus, sur notamment des conflits civils qui opposent une partie juive et une partie arabe. Et selon que le magistrat est lui-même juif ou arabe. Et il montre, cette étude montre déjà un assez fort biais vers sa propre communauté, biais qui est particulièrement renforcé par des circonstances extérieures, notamment les attentats dans la région en Israël. Voilà, donc on a un certain nombre d'études comme ça, qui ne sont pas seulement sur les questions
raciales. C'est ça, il y avait une étude israélienne qui était intéressante sur le moment de la journée et la position des juges. Vous pouvez nous en dire un mot ?
C'est probablement une des études les plus... des articles les plus traumatisants de ceux qu'on a lus dans le cadre de la bibliographie sur ce travail. Effectivement, c'est un article qui s'intéresse chez des juges, des équivalents de juges d'application des peines en Israël. On regarde la probabilité qu'ils ont d'accepter un aménagement de peine selon le temps, le moment de la journée, avec l'idée qu'il y a donc une personne qui commence à travailler le matin, qui ensuite va faire deux pauses, une pause café aux alentours de 10h et un repas aux alentours de midi. Et les chercheurs ont constaté à ce moment-là que le taux d'acceptation de l'aménagement de peine allait de entre 70 et 75% juste après la pause, donc le matin juste après la pause café ou juste après le repas, et que ça tombait à zéro au fur et à mesure, au fil du temps, jusqu'à la pause suivante.
C'est énorme.
Donc quelque chose qui varie de manière massive et extrêmement, extrêmement importante. Alors il y a deux réactions face à ça. Bon, d'un côté, ce n'est pas particulièrement étonnant. Tout enseignant qui a corrigé des copies un jour dans sa vie sait que la façon dont on corrige la première copie et la dernière n'est pas la même. Donc ce n'est pas extrêmement étonnant. C'est en même temps extrêmement désagréable de constater qu'il y a une variabilité telle et complètement indépendante des dossiers. Les chercheurs montrent ensuite qu'il n'y a pas de différence fondamentale dans les dossiers entre ceux qui arrivent sur le bureau, qui sont au-dessus de la pile et que la personne prend le matin, et ceux qui sont deux heures après, juste avant sa pause café. Et donc là, on a encore un biais extrêmement, extrêmement fort qui est mis en évidence par cette étude et qui est, à mon sens, un des plus problématiques des études qu'on a lues dans ce cadre-là. Là encore, comme un certain nombre d'autres études qui travaillent sur les biais cognitifs des individus. Alors les biais cognitifs, sans rentrer dans trop de détails, mais un des plus célèbres, c'est ce qu'on appelle le biais d'ancrage. Donc, c'est l'idée que si on demande 10 ans, même si c'est beaucoup plus élevé que ce que mérite le cas en lui-même, ça fait un point de départ de réflexion qui, inconsciemment, va se fixer dans la tête des gens. Et on a constaté que ce genre de biais-là sont présents dans toute la population et également dans la tête des magistrats ou des jurés.
C'est ça. Il y a aussi l'étude que montre, je crois que c'est Rachlinski, où il montre que les biais cognitifs sont très forts lorsque les juges croient savoir. Et ils estiment qu'ils sont compétents. Et en réalité, la connaissance qu'ils ont, notamment en matière économique, anti-concurrence, et il explique qu'en réalité, la connaissance que les juges ont de l'économie est extrêmement partielle et problématique.
Tout à fait. Enfin, ça, c'est bon. Il y a toute une série de biais comme ça. Il y a notamment des biais rétrospectifs. Par exemple, il y a des expériences faites où on demandait à des gens, à des magistrats, est-ce que vous pensez que vous êtes plus cassé que la moyenne en appel ? Et ils se retrouvaient avec 90% de la population interrogée qui répondait qu'ils pensaient être dans la dans les 50% les moins cassés en appel, ce qui est mathématiquement impossible. On ne peut pas avoir 90% qui est dans les 50% les mieux. Donc il y a toute une série de biais cognitifs qui ont été mis en évidence comme ça. Et nous, ce qui nous a intéressé à ce moment-là, c'est la question qu'on s'est posée et de dire, finalement, d'accord, il y a un certain nombre de biais intrinsèques, de biais cognitifs qui viennent de psychologie ou d'économie comportementale. Il y a un certain nombre de biais de préférence, de discrimination, de préférence, etc. Mais tout ça reste des mécanismes internes. Et est-ce qu'on peut mettre en évidence des influences extérieures sur la fonction, de juger? Et donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est posé cette question de savoir comment mettre en évidence, d'une certaine manière, l'impact des événements extérieurs. Alors, on se dirige assez rapidement, quand on s'intéresse à ça, vers les médias, parce que c'est quand même la source privilégiée d'informations sur le monde extérieur à l'heure actuelle pour un certain nombre, enfin pour la grande majorité de la population.
Et toujours maintenant, vous ne pensez pas que ça peut être aussi un biais, la fréquentation des blogs cette tendance qui est observée par la recherche d'ailleurs, que chacun d'ailleurs va plutôt chercher sur Internet des choses qui vont conforter son opinion et contrairement à ce qu'on pense, ça n'alimente pas forcément un débat très contradictoire.
Alors c'est possible, c'est des questions qu'on nous a posées dans le cadre de cette étude. L'avantage qu'on a quand même ici, bon déjà on s'intéresse à la période 2004-2010, c'est ça les bases de données qu'on utilise. On a 7 ans, tout à fait. On a 7 ans de condamnation qu'on a récupéré au casier judiciaire national à la sous-direction de la statistique et des études au ministère de la Justice. Et on a 7 ans de journaux télévisés, de description des journaux télévisés de TF1 et de France 2 récupérés auprès de l'Institut National de l'Audiovisuel, l'INA. Déjà, même si ça existait déjà, les phénomènes des blogs, etc., est un phénomène qui est en constante croissance. Oui, en début de période 2004, on n'a pas trop ce problème.
C'est important.
La deuxième réponse à apporter à cette question-là, c'est qu'en France, on a cet avantage pour la recherche, pour notre étude, que les journaux télévisés de TF1 et de France 2 sont quand même regardés par des millions de personnes tous les soirs.
Donc on a quand même un
phénomène extrêmement massif. Oui, on a donné, alors je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais on est quand même sur l'ordre de 7 millions, sauf erreur de ma part, pour TF1 alors, et 5 millions pour France 2.
22,7% pour TF1 et 14,9% pour France 2 en 2012. C'est quand même assez
donc on a quand même l'idée que si quelque chose est rapporté par les journaux télévisés de 20h, on va quand même avoir une diffusion très large de cette connaissance-là. Donc l'idée était de regarder la façon dont ces événements-là pouvaient influer sur le déroulé d'un procès. On s'est focalisé dans cette étude principalement sur la façon dont les médias pouvaient influer les décisions de justice en matière d'assises, donc pour les crimes. On a fait cela, même si on a quelques résultats dont je reparlerai après pour les correctionnels, mais on a fait ça pour deux raisons. La première est que on sait très précisément le moment où la décision est rendue pour les assises, mesure où on a peu de mises en délibéré. Alors, les mises en délibéré, ça peut être renvoyer une décision à 15 jours, 3 semaines, etc. Et là, on ne sait plus à quel moment le magistrat va vraiment le prendre la décision. On sait juste le moment où la décision est notifiée.
La constitution du groupe qui va juger est éphémère. Avant, il n'existe pas et après, il n'existe plus.
Et l'autre raison, c'est qu'effectivement, on a des jurés dans ce cas-là. Et donc, on se disait au départ... Alors au départ, quand vous commencez une recherche, vous ne savez jamais vraiment ce que vous allez trouver. Donc, vous cherchez à maximiser la probabilité que vous trouviez quelque chose. Et on s'est dit, a priori, les jurés qui n'ont pas de connaissance sur la justice... au préalable, sont plus susceptibles de s'appuyer sur des informations qui n'ont pas directement à voir, mais simplement par le fait qu'ils n'ont pas d'expérience. Ils cherchent dans leur mémoire, dans leur culture, dans leur connaissance, des événements, des éléments auxquels se raccrocher pour faire leur jugement. Donc on s'est dit qu'a priori, il était plus probable de voir un effet chez eux. Donc ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a pu, on a pris l'intégralité donc des journaux télévisés. Et là-dedans, grâce au travail de l'INA qui met des descripteurs, donc des petits mots de description pour chaque reportage du journal télévisé, on a catégorisé pour chaque jour de toute la période, donc pour 7 fois 365 jours, le nombre de reportages qui traitaient de crimes, de délits ou d'erreurs judiciaires. Les erreurs judiciaires étant très majoritairement liées à l'affaire Outreau, qui a donné lieu à trois grands événements médiatiques avec le premier procès, le procès en appel et la commission d'enquête parlementaire. Donc on avait ces trois types d'événements-là dans les médias. Et ce qui nous a intéressé ensuite, c'est de voir si selon le nombre de reportages qu'on avait sur le crime ou sur les délits ou sur les erreurs judiciaires, on avait des sanctions prononcées par les cours d'assises le lendemain qui étaient différentes. Et on a observé un effet très, ce qu'on appelle robuste en économie, c'est-à-dire très peu sensible à la petite modélisation statistique qu'on peut faire. C'est-à-dire que si on change légèrement le modèle, qu'on change légèrement la base, qu'on s'intéresse qu'à TF1 ou qu'à France 2, ou qu'on prend les deux ensemble, qu'on supprime les brèves, on obtient les mêmes résultats systématiquement, avec un effet qui est à la fois très significatif, sans être extrêmement important, puisqu'on a trouvé une augmentation en moyenne de 20 jours de prison prononcée à l'encontre des personnes en assises par reportage télévisé supplémentaire sur le crime la veille. Et on a trouvé l'effet exactement inverse pour les reportages sur les erreurs judiciaires, avec un reportage sur une erreur judiciaire qui diminue en moyenne la peine le lendemain d'un nombre de jours de l'ordre de 20 jours.
Donc une variation totale de 2 mois.
Une variation totale, enfin en fait c'est
presque 2 mois.
C'est par reportage. Alors les reportages arrivent généralement en groupe, et donc effectivement si on fait juste quelque chose de binaire, est-ce qu'on a parlé de crime à la télé la veille ou est-ce qu'on n'en a pas parlé ? On a une augmentation de l'ordre de 2 mois le lendemain, si on a parlé de crime, et à l'inverse pour les erreurs judiciaires, si on a parlé d'erreurs judiciaires, on a une diminution de l'ordre de 2 mois le lendemain. Alors on peut faire quelque chose, ensuite on peut jouer un petit peu sur est-ce qu'on fait juste quelque chose de binaire, on en a parlé, on n'en a pas parlé, est-ce qu'on compte le nombre de reportages, est-ce qu'on compte le nombre de secondes accordées dans le journal télévisé à ces éléments-là. Tout ça donne rigoureusement les mêmes résultats, donc c'est assez rassurant pour nous, ça veut dire qu'on n'a pas de...
Donc ça veut dire que votre méthode est fiable, quoi.
Ça veut dire, voilà, c'est ça. Ce qu'on nous demande en économie ensuite quand on va le présenter dans des conférences, etc., c'est prouvez-nous que vous n'avez pas juste sélectionné le petit modèle qui sortait bien ce résultat-là. Ce qu'on peut dire à ce moment-là, c'est d'accord, on a testé ça, on a testé une dizaine de choses autres, et à chaque fois, on aboutit au même résultat. Donc, on peut avoir raisonnablement confiance dans ce résultat-là. Par ailleurs, ce qu'on a fait également, c'est ce qu'on appelle des tests placebo. Placebo, c'est comme en médecine, hein, c'est le fait de donner quelque chose une pilule dans laquelle il n'y a rien. Et donc, on a testé, par exemple, l'effet des reportages sur la criminalité le lendemain du jugement. Normalement, ça ne peut pas avoir d'effet. Et bien, effectivement, ça n'en avait pas. On a testé des reportages en prenant d'autres centres d'intérêt, par exemple les reportages sur le cinéma, les reportages sur la consommation, les reportages sur que sais-je encore. On a testé toute une batterie comme ça de types de reportages. Aucun n'avait d'effet sur les peines.
Est-ce que c'est vraiment 24 heures ? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez établir une corrélation entre des informations qui sortent, disons, 3 jours avant, par exemple, et le prononcé du jugement ?
Alors, tout à fait.
Est-ce que l'effet est aussi fort ?
On a fait ce test-là et on constate que c'est un effet de très court terme. C'est vraiment la veille qui compte. Et si on regarde le nombre de reportages la veille et le nombre de reportages dans la semaine qui précède, le nombre de reportages dans la semaine qui précède n'a pas d'influence, n'a pas d'effet supplémentaire au reportage la veille.
Ce qui tendrait à dire que l'effet de la couverture médiatique est un effet relativement, dont l'impact est relativement fort, parce que quand même il va jouer sur la peine, mais en même temps très éphémère.
Tout à fait. C'est vraiment un effet du jour vers le lendemain. Même si on prend la veille et l'avant-veille, on constate que seule la veille a un effet et que l'avant-veille n'en a pas.
Et alors concernant les délits, alors ça c'est pour les crimes, concernant les délits c'est plus compliqué parce que les juges, on ne sait pas exactement quand ils prennent leur décision, il y a le délibéré, et puis même plus profondément, c'est des juges professionnels, donc ils ont des biais professionnels, ceux qui ont été étudiés auparavant, qui les rend peut-être moins sensibles à la couverture médiatique.
Alors c'est toute la question qu'on se posait, d'une certaine manière un des intérêts était de montrer les effets extérieurs, mais un autre était de dire finalement est-ce que cet effet varie selon la composition d'une cour. Alors pour ça, on a quand même creusé un petit peu cette question-là en se disant on va prendre toutes les décisions qui sont prises dans les 15 jours qui suivent une infraction. Quand elles sont prises dans les 15 jours qui suivent une infraction, on peut être sûr que par le mécanisme de comparution immédiate, la décision a été notifiée directement après. Si elle avait été mise en délibéré, on n'aurait pas un délai aussi resserré entre les faits et la décision qu'on voit dans nos bases de données. On a testé ça et on a constaté qu'il n'y avait aucun effet des médias sur ces décisions-là en correctionnel.
Donc aucun effet des médias sur les juges professionnels qui jugent pourtant en comparution immédiate.
Alors,
ou dans un délai rapproché.
Tout à fait. La seule chose, enfin une fois qu'on voit ça, en revanche, on ne peut pas discriminer entre deux hypothèses concurrentes. La première est de dire les magistrats professionnels sont moins sensibles aux événements extérieurs que les magistrats non professionnels, que les jurés. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse est de dire seuls les faits les plus graves sont impactés par les médias et les faits les moins graves, ceux qui sont jugés en correctionnel, ne le sont pas. On ne peut pas discriminer entre ces deux hypothèses, dans la mesure où les deux arrivent conjointement. C'est-à-dire qu'on a soit que des professionnels et des délits, enfin, des moins infractions graves. Mineures, enfin, c'est pas mineur, mais des infractions pas trop importantes, soit des jurés et des infractions extrêmement graves. Donc on ne sait pas, parmi ces deux paramètres-là, lequel est celui qui influence. Toujours est-il que ce qu'on trouve à ce stade, c'est quand même qu'on voit un effet très clair sur les assises et pas d'effet du tout sur les correctionnels. Ensuite, le dernier élément auquel on s'intéresse, mais ça c'est encore un travail qui est en cours à l'heure actuelle, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure, dans la mesure où les jurés sont sélectionnés pour des sessions d'assises, donc ils jugent une série d'affaires où ils sont potentiellement tirés au sort pour
une série d'affaires. Ils ne sont pas toujours tirés au sort, bien sûr.
Mais on a certaines personnes qui restent et qui jugent plusieurs affaires. Est-ce que finalement, l'effet des médias se délite avec le temps, enfin, disparaît au fur et à mesure de la session? Est-ce que finalement, en fin de session, les gens ont un petit peu plus d'expérience par eux-mêmes et donc seraient moins sensibles aux événements extérieurs? Alors ça, on a commencé à travailler là-dessus. C'est un petit peu compliqué de retrouver les dates de début et de fin de session à partir des bases de données dont on dispose au secrétariat général du ministère de la Justice. Donc pour ça, il faut contacter les cours, etc. Donc c'est un travail un petit peu fastidieux de collecte de données. Les premières choses qu'on a fait, c'était juste regarder au sein d'une même semaine et en se disant, au sein de la même semaine, dans le même département, a priori, c'est deux procès qui viennent de la même session d'assises. Et on constatait que l'effet était plutôt plus fort sur le premier procès de la semaine que sur le second. Oui, avec une idée d'un petit peu d'apprentissage, en tout cas. Ça reste à confirmer.
C'est ça, parce que ce qui est compliqué, c'est que vous parliez de l'effet d'ancrage. L'effet d'ancrage étant en quelque sorte comment le raisonnement se fixe à partir d'un chiffre qui a été donné. Il y a certainement un effet, de manière tout à fait intuitive, un effet comparatif. C'est-à-dire que j'imagine qu'un juré qui commence par une affaire extrêmement grave, avec un crime de sang qui est extrêmement choquant pour quelqu'un qui n'est pas habitué, pour les autres aussi, mais ils ont construit des défenses, il risque d'être de juger de manière comparative par rapport aux affaires dans un tout petit segment, par rapport aux affaires qu'il a vues dans la session.
Vous avez parfaitement raison. C'est un second aspect qu'on cherche à étudier dans le cadre de cette thématique sur l'apprentissage et sur l'évolution au fil de la session d'assises. Donc, si vous me réinvitez dans un an, je pourrais vous en dire plus. Pour l'instant, on n'a pas encore énormément d'éléments. Ce qu'on a fait au sein de la semaine tendait à montrer que le deuxième procès de la semaine, les peines n'étaient pas différentes selon la nature du premier procès. C'est-à-dire, si on est le deuxième de la semaine après un meurtre en premier procès de la semaine ou après un braquage à main armée, par exemple, en premier procès de la semaine, on ne constatait pas de différence statistiquement significative sur le deuxième procès. Ça reste à creuser, mais vous avez tout à fait raison, c'est un aspect qui est extrêmement important, donc il faut qu'on le travaille un petit peu encore, celui-là.
Et oui, qui
pour l'instant, on n'a pas d'éléments pour aller dans ce sens-là.
Il est certain que ce que vous montrez quand même, et je rappelle pour nos auditeurs, ce que vous montrez dans le fond, c'est une influence de la couverture médiatique la veille sur les décisions du lendemain. Voilà, ça c'est, vous pouvez l'affirmer, une variation qui est établie et qui est légère, quoi. Légère en nombre de jours, c'est-à-dire c'est une variation en gros d'un mois dans un sens ou dans un autre, 20-22 jours.
Après, il faut bien se rendre compte, enfin nous on était d'une certaine manière rassurés de trouver cet effet-là.
Oui.
Bon déjà, d'un point de vue...
Oui, c'est assez rassurant, c'est-à-dire qu'en fait les variations sont très faibles quand même.
Les variations sont très faibles, sont pas si importantes que ça. L'autre chose, c'est que ça n'aurait pas été crédible de trouver une variation de 3 ans. Parce que si la variation était de 3 ans, on a quand même des phénomènes d'appel, etc. Enfin, donc on a quand même des garde-fous.
Arnaud-Philippe, quand même, ça pose un problème d'égalité devant la loi.
Mais complètement.
C'est-à-dire que...
même faible, l'effet reste problématique. Voilà. Et c'est ce qu'on s'est dit avec Aurélie au préalable. L'idée était, on a fait un papier de recherche là-dessus, qu'on va nous... présenté dans nos universités d'un point de vue de recherche, mais finalement ce qui est intéressant pour nous, c'est aussi de le présenter, enfin d'en parler aux professionnels, etc. Parce que l'économie est une science sociale, donc la réalité est mouvante, et c'est pas parce qu'on a montré quelque chose sur la période qu'on a étudiée que c'est une vérité valable toujours et en tout lieu.
Et puis en plus, c'est une matière humaine, ce sont des gens qui la conscience libère, disait Aristote. Donc à partir du moment où ils vont avoir conscience de cet effet sur eux et où ils seront mis en garde par les présidents de cour d'assises, ils vont pouvoir corriger d'eux-mêmes.
C'était tout à fait l'idée. Enfin, c'est pour ça qu'on a commencé à le présenter dans des cercles qui étaient plus professionnel, enfin autre, en dehors des cercles académiques qu'on fréquente professionnellement, naturellement, mais qui était un peu de dire, d'une certaine manière, ce qui serait satisfaisant pour nous, c'est de remesurer la même chose sur une période ultérieure et de ne plus trouver ces résultats-là. Le simple fait d'être conscient que ce problème-là existe peut suffire à l'atténuer et à réduire ce biais, même si on sait bien que les gens seront toujours pour partie influencés par le monde extérieur, mais au moins, voilà, avoir des présidents de cours d'assises qui peuvent dire « faites attention quand même à ne pas vous laisser trop influencer par les événements extérieurs, c'est pas parce qu'il y a un crime horrible qui est présenté au journal télévisé dans la semaine que ça doit biaiser votre perception de ce que vous êtes en train de juger, et c'est une question d'égalité des citoyens devant la loi qui fait qu'on doit être jugé de la même manière ». Quel que soit le jour de la semaine et quel que soit le contexte extérieur. Alors,
ce qui est très intéressant, c'est que ça veut dire qu'il doit y avoir... c'est une nouvelle place pour la recherche dans la justice aussi, parce que ça veut dire que c'est une recherche très concrète sur des choses qui sont quand même relativement bien établies, qui sont robustes, dites-vous, enfin, cet anglicisme, ce néo-anglicisme d'un mot français, et qui devrait être finalement indiqué, connu, divulgué auprès de tous les présidents de cours d'assises pour que ça fasse quasiment l'objet d'un avertissement spécifique.
Alors c'est, il y avait deux parties dans votre question, mais effectivement l'objectif est de divulguer ces éléments-là vis-à-vis des professionnels. Donc ça c'est ce qu'on fait un petit peu au sein du ministère de la Justice par ma présence ici aussi d'une certaine manière. Et effectivement ça souligne bien l'intérêt qu'il peut y avoir pour les économistes, enfin pour les d'une manière plus générale, pour les statisticiens, pour les gens qui sont habitués à des bases de données, etc., à utiliser aussi au sein de la justice ces éléments qui tendent à s'ouvrir quand même à l'heure actuelle. Enfin, c'est une recherche, la recherche en économie de la criminalité est principalement faite aux États-Unis et dans une moindre mesure en Italie. C'est assez peu présent en France, mais ça a tendance à se développer avec un certain nombre de chercheurs qui commencent à avoir accès à des données administratives leur permettant d'étudier ces phénomènes-là. Que ce soit au ministère de la Justice, au secrétaire général, donc avec le casier judiciaire, comme ce à quoi j'ai pu avoir accès, ou avec la direction de l'administration pénitentiaire.
Est-ce que ça veut dire, Arnaud-Philippe, que vous proposeriez, vous pensez inaugurer en quelque sorte une nouvelle sensibilité des sciences sociales qui, sur l'activité judiciaire, parce que là, la criminologie, c'est l'étude du crime, là, ça serait la jugeologie, je ne sais pas comment dire, ce serait l'étude du comportement professionnel des juges. C'est une nouvelle tendance là pour les sciences sociales sur la justice.
Ça nous préexiste très très largement, mais on essaye plus modestement d'apporter notre pierre à cet ensemble là. Mais effectivement, on espère, mais on a l'impression quand même que les choses s'ouvrent un petit peu à ces types de travaux-là, qui ne sont pas exclusifs des autres, du tout.
Mais bien sûr. Mais vous disiez que ces études étaient beaucoup plus répandues aux États-Unis et en Italie. Alors, c'est intéressant parce que ça permet, d'abord, ça inspire du point de vue de la méthode, j'imagine, mais aussi au point de vue des résultats. Est-ce que vous avez essayé de comparer les résultats pour savoir si les juges israéliens sont plus sensibles aux médias, parce qu'il y a cette peur, ce qu'on rappelait sur la présence de l'attentat qui est beaucoup plus forte en Israël que chez nous, ou est-ce qu'il y a des variations suivant les pays ou suivant le contexte politico-judiciaire, Arnaud-Philippe ?
Alors il y a probablement beaucoup de différences entre les pays. C'est une étude qu'on n'a pas du tout répliquée dans différents contextes. Effectivement, l'économie de la criminalité est plus présente aux États-Unis pour une raison assez simple, qui est que...
Tout est plus présent aux États-Unis, toutes les sciences sociales...
La recherche est assez puissante là-bas, mais aussi la question de la criminalité, oui, en particulier sûr. La question des prisons, est quand même beaucoup plus importante qu'en Europe, dans la région où on a quand même 10 fois plus de prisonniers chez eux. Et donc voilà, donc c'est pour ça aussi que ça nécessite qu'en Europe, on réétudie une partie des travaux qui ont pu être faits aux États-Unis, simplement pour voir si dans nos contextes, on a les mêmes résultats.
Eh bien, Arnaud-Philippe, merci.
Merci.
Cette émission a été préparée par Victor Massé de l'Épinay, à la réalisation Viviane Noël et à la technique Jean-Guilain Meige. Je rappelle aux auditeurs qui peuvent réécouter cette émission pendant 3 ans, la télécharger, ils trouveront la référence de l'article dont on a parlé aujourd'hui. Mais tout de suite, place à Question d'éthique, l'émission de Monique Cantos-Perbert.
Thank you.